faire. Bah donc, conclusion, il faut réduire les dépenses et revoir à la fois le périmètre et l'efficacité de l'action publique, avec à la clé 40 milliards à trouver. Et c'est là que les difficultés commencent. Car chaque économie évoquée fait hurler toute une série de gens et que François Bayrou et ses ministres, pour l'instant, ne se pressent pas de mettre sur la table des idées concrètes. D'où son idée du référendum pour valider un plan qu'il voudrait global et pas juste une liste de coupes budgétaires. Bon, très bien, mais ça ne remplace pas les idées elles-mêmes. Et se contenter d'évoquer un référendum, eh bien, ressemble un peu à un nouveau moyen pour gagner du temps.
Mais est-ce que ça n'est pas aussi le seul moyen, en France en tout cas, pour passer outre les blocages catégoriels et les intérêts corporatistes ?
Eh bien, c'est ce que prétend François Bayrou, mais ne tournons pas autour du pot. Si l'on doit trouver 40 milliards, la potion sera de toute façon amère, quelle qu'en soit la présentation, donc impopulaire. Alors un gouvernement, vous savez, il peut éventuellement tenir face à des grèves, face à des manifestations, face à des résistances corporatistes, mais pas face au verdict du suffrage universel. Et donc, si les Français répondent non à un éventuel référendum sur les finances publiques, et entre nous, dans le contexte actuel, on voit mal un plébiscite sur un tel sujet, que fera le Premier ministre ? Eh bien, il n'aura tout simplement plus ni l'envie ni la légitimité pour opérer ce redressement qu'il considère pourtant comme étant vital.
L'éditorial de Guillaume Tabar, que vous retrouverez sur lefigaro.fr en vidéo. Et maintenant, l'invité de la matinale. Le président de la République lancera aujourd'hui, depuis la Sorbonne et en présence d'Ursula von der Leyen, l'initiative Choose Europe for Science, avec l'objectif d'attirer les chercheurs du monde entier en Europe et en France pour exercer, pour en parler, pour évoquer cette ambition. Avec nous, le directeur, le président du CNRS.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Antoine Petit.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Qu'attendez-vous de cette prise de parole du président de la République en présence de la présidente de la Commission européenne ?
Je crois que c'est un signe supplémentaire qui va être donné aux chercheurs et aux chercheuses exerçant aux États-Unis, mais aussi peut-être dans d'autres pays où la science est empêchée. Un signe pour leur montrer que l'Europe et la France en particulier sont des terres d'asile potentielles pour eux.
On va parler des avantages comparatifs, si j'ose dire, de la France en matière de recherche et de ses atouts séduction, si j'ose dire, auprès de ses personnels aujourd'hui, soit expatriés, soit étrangers, qui seraient tentés par une installation en France. Mais des détails sur le CNRS qui lui-même est associé à cette initiative Choose Europe for Science. Quelle est votre ambition à vous, CNRS ?
En fait, au CNRS, on a l'habitude de recruter des chercheurs et des chercheuses étrangers, puisque chaque année, un tiers à peu près des gens que nous recrutons sur des postes permanents ont une autre nationalité que la nationalité française. Donc pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ce que nous souhaitons avec ce mouvement Choose Europe for Science, c'est finalement avoir une caisse de résonance pour que plus de chercheurs, plus de chercheuses aient envie de venir en France nous rejoindre.
Alors, évidemment, ces sujets sont venus sur le devant de la scène depuis l'élection de Donald Trump, depuis les économies budgétaires forcées, si j'ose dire, qu'il a imposées à un certain nombre de laboratoires de recherche dans des grandes universités américaines. Alors, est-ce que l'objectif, et là il faut clarifier aussi les choses vis-à-vis de nos auditeurs, est-ce que l'objectif c'est d'aller chercher des Américains aux États-Unis qui seraient en rupture de banc académique, ou est-ce que l'objectif c'est de faire venir des chercheurs étrangers qui travaillent aux États-Unis mais qui ne sont pas forcément américain.
L'objectif numéro un, il est de recruter les meilleurs et de les inviter à venir en France. Peu importe leur nationalité, ça peut être des Américains qui ont envie d'avoir une expérience à l'étranger, ça peut être des gens d'autres nationalités, par exemple des Français qui ont envie de rejoindre la France. Nous, peu nous importe, ce que la chose qui soit vraiment importante, c'est que ce soit des gens de valeur qui vont renforcer l'écosystème français de la recherche.
Alors justement, écosystème français de la recherche, ça suppose quand même des choix de la part de la France, de la part aussi du CNRS, sur quel type de recherche nous intéresse. Est-ce qu'on va aller chercher plutôt des sciences humaines ? Est-ce qu'on va aller chercher les fameuses études de genre qui font dresser le poil sur la tête à Donald Trump ? Est-ce qu'on va aller chercher des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle ? Est-ce que vous avez des critères ?
Le critère numéro un, c'est la qualité scientifique, ça c'est clair. Après, au CNRS, on couvre l'ensemble des disciplines. le quantique, l'intelligence artificielle, la chimie, les sciences de l'environnement, la climatologie, et puis aussi les sciences humaines et sociales. Donc tout est ouvert, et évidemment l'objectif c'est de recruter un panel de gens qui vont, si ce n'est couvrir l'ensemble des domaines, mais en tout cas en couvrir une bonne partie, et les sujets ne manquent pas. Et maintenant, on a vu aux États-Unis que les sujets qui sont le plus mis en cause par l'administration Trump sont ce qui a trait au climat, ce qui a trait à la biodiversité, ce qui a trait à la santé. Donc ça fait un certain nombre de sujets. Le président de la République a mis en avant aussi les sujets qui sont couverts par ce qui s'appelle les agences de programme qui ont été créées il y a quelques années. Mais encore une fois, l'idée, c'est de recruter les très bons ou les très bonnes qui ont envie de nous rejoindre, quel que soit leur domaine.
Alors, vous m'avez dit qu'un tiers des recrutements du CNRS chaque année concerne des chercheurs étrangers, ce qui veut dire qu'avec l'initiative Choose Europe, et sous-entendu, choisissez la France aussi, on va monter en puissance, ce qui veut dire des moyens supplémentaires dans un pays dont il est convenu de dire qu'il ne fait déjà pas assez pour sa recherche scientifique publique.
Alors, la France est un pays qui stagne en ce qui concerne l'ensemble des dépenses de recherche, qu'elles soient publiques ou privées. On stagne depuis une trentaine d'années, alors que nos concurrents, eux, progressent. Et donc, il y a un différentiel qui ne va pas dans la bonne direction. Finalement, le fait d'avoir ce grand mouvement de Choose Europe est aussi une manière de signaler cet état de fait qui est que la France est en train de prendre du retard. Et donc, même si nous sommes encore un grand pays scientifique, il faut veiller à le rester. Et il est clair que la question des salaires est une question absolument primordiale, parce que les chercheurs et les chercheuses ont le choix d'aller exercer leur talent partout dans le monde, et que les conditions purement salariales ne sont pas les meilleures en France. Mais il y a d'autres arguments.
On va évoquer les arguments de la France pour attirer ses chercheurs étrangers. On va donner quand même quelques chiffres. La Corée du Sud consacre près de 5% de sa recherche, 5% du PIB à la recherche, les États-Unis 3,5% environ, l'Allemagne 3%, la France, le chiffre c'est 2,2% du PIB consacré à la recherche. Vous me détrompez, hein, si
Tous ces chiffres sont mais c'est public et privé confondu.
Voilà. Donc, que peut-on faire pour améliorer les choses, sachant, on l'a entendu dans un des journaux de la rédaction précédemment sur Radio Classique, grosso modo, pour bien accueillir un chercheur en France, l'installer, le motiver, c'est 1 million d'euros pour 3 ans.
Alors ça, c'est vraiment pour les chercheurs confirmés.
Ouais.
Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on va les accueillir, on va en accueillir un certain nombre pour un peu moins. Ce qui est clair, c'est que les gens que nous allons accueillir, on va les payer comme les gens qui sont actuellement en France. Ce serait inacceptable pour l'ensemble de la communauté des chercheurs et des chercheuses exerçant déjà en France si des gens qui venaient d'ailleurs, que ce soit des États-Unis ou d'ailleurs, étaient payés beaucoup mieux. Donc on va les payer avec des salaires qui sont équivalents, et dans la somme qui est indiquée, il est inclus ce qu'on appelle l'environnement de travail. C'est-à-dire, si vous faites venir quelqu'un des États-Unis, qu'il soit américain ou pas, et qui vient en France, il faut l'aider à monter une équipe. Donc recruter un doctorant, recruter un post-doctorant, tout ça coûte de l'argent, et dans ce 1 million d'euros, il y a tout à la fois. Il y a le salaire du chercheur ou de la chercheuse, il y a le fait qu'il va pouvoir recruter quelques collaborateurs, il y a éventuellement des infrastructures de recherche, et tout ça fait 1 million d'euros. Mais si vous regardez 1 million d'euros, ça fait à la louche 300 000 euros par an. Si vous comptez le salaire de plusieurs personnes et l'infrastructure de recherche, vous êtes à des niveaux de salaire qui sont ceux habituellement pratiqués en France.
Antoine Petit, président du CNRS, cas pratique, vous rencontrez un chercheur qui est à Stanford, à Yale, je ne sais où, et vous lui dites il faut venir en France, ça se passera bien. Quels sont les 3 atouts, quels sont les 3 avantages que vous pouvez mettre en avant ?
Alors, ce qui est clair, c'est que la recherche est un exercice collectif, contrairement à ce qu'on croit parfois, et qu'un chercheur ou une chercheuse va chercher l'endroit où il va trouver des collaborateurs de valeur, et il va chercher aussi un endroit où il va y avoir des étudiants bien formés, il va chercher un endroit dans lequel il aura accès à des équipements de recherche de pointe. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement de recherche. Et ça, c'est offert par les grands pays scientifiques. Et comme je disais tout à l'heure, la France reste un grand pays scientifique. Et c'est ça qui va attirer les chercheurs et les chercheuses. Et peut-être qu'ils vont venir que quelques années en France et qu'ensuite ils repartiront ailleurs. Mais c'est pas grave. Ils auront tissé des collaborations avec des équipes françaises. Et ce sera bénéfique pour la recherche de notre pays.
Ce qui veut dire que le premier argument, c'est des équipes bien formées qui les attendent ou pas en France. Il y en a d'autres, le cadre de vie, j'ose pas dire les transports, puisqu'aujourd'hui c'est la grève toute la semaine. Mais il faut les convaincre quand même.
Oui, mais excusez, si les centres de recherche des grands GAFAM, par exemple, pourquoi les grands GAFAM ont ouvert des centres de recherche en France ? C'est pas juste parce qu'on a du bon vin, c'est parce que avant tout, ils ont accès, encore une fois, à des chercheurs, à des étudiants bien formés. C'est pareil pour les chercheurs du monde entier. Après, la qualité de la vie, oui, ça va intervenir, comme pour tout un chacun, mais c'est clairement pas l'argument principal. L'argument principal, c'est la qualité de l'environnement scientifique qu'ils vont pouvoir trouver.
Vous citez les GAFA, les grandes firmes informatiques. Est-ce que les chercheurs sont sensibles aujourd'hui à l'état d'avancement des recherches et des équipements qui concernent l'intelligence artificielle avant de se déplacer ou de s'expatrier ? Parce qu'évidemment, le pays de l'IA, aujourd'hui, ce sont les États-Unis et c'est la Chine.
Alors, le pays de l'IA, alors d'un point de vue économique, oui, bien sûr, vous avez raison. Maintenant, l'IA, c'est quand même avant tout des mathématiques et de l'informatique. Et la France reste probablement la nation numéro un ou une des deux premières nations en ce qui concerne les mathématiques. Et donc, on a en France des cerveaux, que ce soit féminin ou masculin, de grande qualité. Donc, on a en potentiel, en ce qui concerne l'IA, qui est tout à fait fort en France et en Europe, avec aussi quelque chose qui est en train de monter, c'est l'application, c'est l'utilisation de l'IA dans d'autres domaines. Donc IA et chimie, IA et énergie, IA et santé, et tout ça, ce sont des sujets sur lesquels la France et l'Europe ont tout à fait des atouts de premier plan.
Question que se posent beaucoup de Français, c'est comment évalue-t-on les chercheurs aujourd'hui, leurs résultats entre liberté totale, ce qu'on appelle la liberté académique, le contrôle nécessaire, puisque souvent des fonds publics et privés sont engagés, et l'évaluation des résultats. Comment fait-on en sorte que la recherche soit un investissement, sans être dans un court-termisme nécessaire, mais enfin, pas nécessaire, mais de donner dans le court-termisme?
Alors, il y a plusieurs façons d'évaluer les chercheurs et les chercheuses, et c'est probablement une des professions les plus évaluées. C'est-à-dire que les gens sont évalués tous les ans. On les évalue à la fois sur la production scientifique, c'est-à-dire les publications, les conférences, mais aussi les brevets, les innovations. Et si on prend maintenant pas un chercheur ou une chercheuse, mais l'ensemble du CNRS, par exemple, on crée chaque année entre 80 et 100 start-up. On a plus de 300 laboratoires communs avec des industriels dans lesquels on fait notre métier, qui est de la recherche fondamentale, mais on l'a fait sur des questions qui ont été définies avec les partenaires industriels. Et donc, vous voyez que ce lien entre la recherche académique, la recherche fondamentale d'un côté, et l'innovation est absolument clé. Toute innovation, en fait, est née de recherche fondamentale. Et simplement, il faut construire le chemin qui va de cette recherche fondamentale à l'innovation, à la création de valeur, à la création d'emplois.
Antoine Petit, une dernière question. Si le président de la République n'annonce pas des moyens pour rattraper le temps perdu et les moyens qui ne sont pas arrivés en 30 ans et que vous pointiez à l'instant, ce sera une réunion pour rien ?
Non, je crois qu'encore une fois, on attire chaque année des chercheurs et des chercheuses étrangers. Et je crois que c'est important de rappeler que dans un contexte international dans lequel la science est quand même remise en question de façon assez inquiétante, l'Europe est une terre d'asile pour la science et pour les scientifiques du monde entier.
Antoine Petit, président du CNRS, était l'invité de la matinale de Radio Classique. Merci et merci à bientôt, Monsieur le Président.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Hervé.
Bonjour.
Dans la presse du jour, une actualité pleine de spéculations.
Avec cette question en première page du Parisien, et si le prochain pape était français ? On peut y voir un peu de chauvinisme ou d'esprit de clocher, mais alors que s'ouvre la semaine cardinale du conclave, des Français semblent bien dans la course. Le journal passe en revue ses papabilis made in France. Au premier rang d'entre eux, Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, dont un proche confie qu'il commence à mesurer la gravité du moment. Il doit se demander « Et si c'était moi ?» La dernière fois qu'un pape français a été élu remonte à 1370. C'était Pierre-Roger de Beaufort qui choisit de s'appeler Grégoire XI et fut élu à l'unanimité. Sans trop spéculer, on peut être sûr que ce sera plus serré cette fois-ci.
Le Figaro aussi consacre plusieurs pages et décrit en effet une très grande incertitude.
Jean-Marie Guénois, le vaticaniste du Figaro, raconte les coulisses de la préparation du conclave qui s'ouvrira mercredi. Ce lundi, toute toute la journée et probablement mardi jusqu'en fin d'après-midi, les cardinaux vont conclure les congrégations générales, ces réunions qui visent à établir le bilan et l'état réel de l'Église. S'y ébauche en creux le portrait robot du pape idéal. Une quinzaine de ces prélats, écrit le Figaro, sont déjà scrutés à la loupe, jaugés, écoutés avec attention, admirés ou critiqués par les 200 autres. Les participants ont chacun 5 minutes pour s'exprimer. En général, ça se passe le matin, mais le temps manque et les cardinaux ont demandé...
dont certains ont été hérités d'une certaine manière aujourd'hui. Ce qu'on appelle le privé, donc c'est-à-dire le détour du New Space, donc cette nouvelle phase de l'histoire spatiale au tournant des années 2000, c'est un public qui se reconfigure en réalité. Elon Musk tire avec des moteurs qui sont financés par la NASA pour d'autres entreprises. Il tire depuis des bases qui sont des bases de missiles américaines.
Donc c'est aussi du public qui est impliqué.
D'une certaine manière, d'ailleurs, il y a eu une enquête récente qui l'a bien montré. Hein. Elon Musk, depuis le début de SpaceX, on est en 2002, c'est 22,6 milliards de dollars qui sont injectés. Donc ce sont des contrats avec le département de la Défense, ce sont les contrats pour le ravitaillement de la Station Spatiale Internationale. Et c'est aussi un modèle d'affaires qui est lié à la puissance symbolique américaine avec Starlink, les constellations de satellites. Donc il marche un peu sur trois jambes avec cet univers du vol habité, cet univers du lancement avec des fusées comme Falcon, qui fonctionne très bien, et cet univers des télécommunications. On ne peut pas délier ça, finalement, du reste du complexe militaire ou industriel américain qui nourrit abondamment cette dite conquête, autant qu'il nourrit d'ailleurs tout un tas d'autres entreprises, des centaines en réalité, dans le New Space, mais la plus grosse, et je pense que là-dessus, il y a quasiment consensus, les économistes de l'espace le disent bien, la seule grosse entreprise du New Space, c'est quand même SpaceX en réalité.
Je vous propose d'écouter un extrait du film To the Moon de 2024, réalisé par Greg Berlanti avec Scarlett Johansson. Mais attention, c'est un fantasme qui correspond assez à vos thèses, c'est-à-dire que toute cette histoire d'aller marcher sur la Lune, c'était une histoire de marketing. Et les chercheurs rappellent que c'est une reconstruction. Ce n'est pas exactement comme cela que ça s'est passé dans la réalité, mais ça prouve bien qu'on a tendance à lire des enjeux capitalistiques au tout premier plan. Écoutez.
Et je voudrais vous faire valider des campagnes publicitaires. Omega.
On n'est pas à New York, on n'a pas de budget pour ça.
Non, ça ne coûtera rien. La marque en tire une visibilité exceptionnelle et la NASA fait son chemin dans la tête de monsieur et madame tout le monde.
Une pub de montre. Alors c'est ça votre grande idée.
Prêt ? Mm-hmm. Dentifrice. Tang ! De l'énergie au petit déjeuner pour les astronautes d'Apollo lors de leur voyage pour la Lune.
De la poudre dans l'espace.
Et ma petite préférée ? Fruit of the Loom. Bah oui, les astronautes doivent bien porter quelque chose sous leur combinaison.
On est à la NASA, Fruit of the Loom. Il n'est pas question de transformer ce vaisseau en panneau publicitaire volant. Et ça, même si vous y tenez plus que tout au monde. Et pour finir, on n'aura pas le temps de tester ces équipements avant le lancement.
Qu'on les envoie ou non, peu importe. L'essentiel, c'est de dire qu'on l'a fait.
Donc vous mentez aux gens?
Non, c'est de la vente. On ne ment pas, on change la perception des clients.
Non, c'est du mensonge. Pour vous, le monde n'est peuplé que de clients potentiels, n'est-ce pas? Je sais bien que vous êtes un ponte de la publicité et un requin aux dents longues, mais la NASA n'est pas un produit qu'on vend avec un jingle et un slogan.
Là n'est pas la question. La NASA va devenir la coqueluche du public, le Congrès s'en rendra compte et finira par rouvrir les vannes.
Et tout ce que j'ai à faire, c'est laisser Armstrong porter une montre Omega?
La sphère complotiste, paraît-il, se régale avec ce film. Une histoire de capitalisme, au fond, la guerre des étoiles et la conquête de la Lune. C'est votre point de vue aussi?
Disons un petit peu plus mesuré, mais je pense que ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est de montrer qu'effectivement, la NASA a besoin de convaincre qu'une forme de culture matérielle est mise en place, mais cela intervient d'une certaine manière avant le programme lunaire. Qui va coûter quand même jusqu'à 5% du PIB au climax d'Apollo, donc il faut toujours convaincre. Mais cet effort de conviction, il démarre dès la fin des années 40, en réalité, alors que ce qui est imaginable du point de vue de la conquête, c'est-à-dire le fait d'y aller, de s'y rendre, ce qui est déjà en soi pas neutre, hein, le fait d'imaginer l'espace comme un milieu profond qu'on puisse habiter, conquérir, c'est pas une évidence. L'espace, c'est aussi le ciel, le cosmos, la Voie lactée. Donc il a fallu aussi créer, ou en tout cas ces représentations ont fini par dominer, en tout cas une certaine partie du public, et ont lieu à travers beaucoup de documentaires. Donc, dès les années 40, vous avez Werner von Braun, par exemple, ancien nazi, qui travaille avec la NASA, et également avec Disney, pour présenter la conquête spatiale comme un avenir désirable. Et il y va finalement aussi de subterfuge, un petit peu comme on l'a entendu dans cet extrait, c'est-à-dire en présentant des vaisseaux, des navettes qui n'existent pas vraiment, avec des ailes très élancées qui n'ont pas franchement d'utilité dans l'espace puisque vous n'avez pas de portance. Le rôle des maquettes est aussi très important en réalité. C'est une maquette qui va être amenée en Europe pour aussi convaincre les Européens de se joindre au futur projet de la Station Spatiale Internationale. Donc ça compte, effectivement.
Alors on va enfoncer le clou sur l'histoire des nazis dans la NASA. Donc au départ, il y a eu un port en Allemagne, au bord de la mer Baltique, en Poméranie occidentale, au nord-est de l'Allemagne, qui s'appelait Peenemünde, je crois que c'est comme ça qu'on prononce.
Tout à fait ça.
Et donc, entre 1936 et 1945, beaucoup d'ingénieurs nazis ont travaillé là, à beaucoup de projets qui pouvaient effectivement impliquer des enjeux extraterrestres, spatiaux, etc.
L'idée a été à ce moment-là, à Peenemünde, de contribuer à fabriquer des armes miraculeuses, hein, les fameux Wunderwaffen, donc c'est-à-dire des missiles capables, parce qu'ils passaient au-delà des limites de l'atmosphère, d'aller très très vite, hein, donc les V1, les V2 et bien d'autres en réalité, les plus connus sont les V2, qui ont été fabriqués en série dans cette usine qui a été en réalité bombardée par la Royal Air Force en 1943,
oui.
Et qui a conduit à sa migration à Dora Mittelbau, donc une autre usine cette fois-ci.
Un camp de concentration, Dora Mittelbau, près du camp de Buchenwald, autre camp de concentration, donc pas mal de prisonniers de ces camps ont travaillé dans cette usine.
Absolument, et 20 000 sont par ailleurs morts dans des conditions absolument atroces. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du passé qui ne passe pas dans l'industrie astronautique. En réalité, on se raconte aussi cette histoire de la conquête spatiale.
C'est-à-dire, pour préciser, les Américains ont recruté des ingénieurs après la guerre en les blanchissant, en les évitant qu'ils aient des problèmes, en particulier Werner von Braun. Mmh. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu?
Bien sûr, ils sont en réalité 128 à partir aux États-Unis pour ce qui est de l'astronautique. Ils atterrissent au Texas puis en Alabama. Ce qui est moins dit, c'est que ça relève moins de l'accident de l'histoire que d'une grève qui prend. Ces gens arrivent en Alabama, qui est un état raciste, et en fait ça fonctionne très bien, tout simplement parce qu'ils s'y retrouvent idéologiquement dans une Amérique qui est aussi, c'est les lois de Jim Crow, c'est la ségrégation en réalité. Après, la France, l'Angleterre, l'URSS vont aussi y aller de leur reprise, hein. En France, on va avoir de la même manière un village allemand qui va être monté en Normandie, près de Vernon, et qui va permettre aussi à la France de prendre une certaine avance. Mais ça, c'est d'une certaine manière, c'est pré-histoire spatiale. On aime, et d'ailleurs c'est ce que fait par exemple Anna Arendt quand elle fait démarrer cette modification anthropologique du rapport à l'espace par 1957 avec Spoutnik. Matériellement, si on est un peu plus matérialiste, justement, l'histoire spatiale naît bien avant. Elle naît dès les années 40, avec des groupes de fuséologues amateurs qui font décoller des fusées dans leur jardin. Donc c'est intéressant de remonter là et de voir les phénomènes de cristallisation industrielle. Il y a des moments où ce qui est de l'ordre de l'amateurisme devient une possibilité technique et qui se marie à plein de choses qui sont d'une certaine manière l'astroculture. Donc on a des fusées, on va pouvoir mettre des gens au bout et vraiment partir, ou encore la question militaire, la consubstantialité avec l'arme nucléaire. Donc il est important de retracer cette histoire dans tous ses rhizomes, en fait, pour bien la comprendre.
Donc Spoutnik 1, c'est en 1957, c'est une humiliation pour les Américains. Les Soviétiques ont été capables de mettre en orbite le premier satellite, et on peut effectivement, certains disent que toute la suite pour la NASA a été une volonté de faire oublier cette première humiliation. Alors, je vous propose qu'on introduise d'autres concepts que seulement celui d'une domination. Alors, chez vous, ça, vous y allez fort, hein, des nazis aux capitalistes. Là, on a l'impression qu'il y a une ligne droite, un petit peu. Non, je me trompe?
Non. Il faut le prendre comme un 2A. Qui n'est rien d'autre que deux points dans l'histoire qui ne sont pas forcément reliés. Ce livre est un gros livre qui va rabattre d'une certaine manière 100 ans d'astronautique, c'est-à-dire c'est plutôt une histoire de l'astronautique, en commençant dans les années 40, en finissant dans les années 2020. En réalité, le livre est sorti en 2024. On ne pourrait pas faire un lien direct entre l'Allemagne nazie et l'astrocapitalisme récent, ça n'a absolument aucun sens. Et puis d'ailleurs, il y a tout un tas de périodes en fait, qui sont très mal connues, dans les années 70, au milieu des années 90, avec des phases de libéralisation, par exemple, du GPS, hein, qui sont des phénomènes liés au spatial qui sont tout à fait capitaux dans la construction de l'astrocapitalisme, qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Donc pas d'inquiétude, ce livre ne tire pas un trait grossier entre ces deux périodes.
Vous mobilisez aussi le paradigme colonial, si j'ai cru comprendre dans votre travail.
En fait, on mobilise tout ce qui permet de lire l'histoire du spatial d'un point de vue politique. C'est-à-dire en évitant les raccourcis qui sont ceux des grandes dates, qu'on voit systématiquement, par exemple dans les grandes expositions sur le spatial, dans quelques livres parfois un peu trop vulgarisants, c'est-à-dire 1957 Sputnik, puis ensuite la série des premières soviétiques, hein, donc Gagarine, Tereshkova, etc. On envoie des chiens, des rats, des singes, etc. Jusqu'au climax d'Apollo avec le pied sur la Lune, et puis très vite on passe aux robots, la Station Spatiale Internationale, on voit à peu près de quoi on parle, mais en réalité, on n'arrive pas finalement à tirer vraiment les ficelles de tous ces choix ou non-choix qui sont faits ou qui ne sont pas faits.
En tout cas, c'est un désir de domination qui traverse votre analyse, c'est ça le point nodal de votre ouvrage. Et donc, je vais faire référence à un autre penseur philosophe, Günther Anders, du XXe siècle, extrêmement sombre, très critique, au moins autant que vous. Mais lui, c'est plutôt du côté de la psychanalyse qu'il va chercher des concepts pour penser l'enthousiasme pour la conquête des étoiles, on va le dire comme ça, même si c'est un enthousiasme qui n'est pas... Je ne vais pas donner trop de nuances, on va en parler après. Écoutons cet extrait de Vue de la Lune de Günther Anders, Réflexion sur les vols spatiaux. C'est un ouvrage ancien qui a été publié en 1994.
Pas besoin d'être psychanalyste pour se rendre compte que l'enthousiasme paranoïaque de millions d'Américains pour les fusées et les vols spatiaux, notamment ceux qui visent la Lune, permet, voire exige, une interprétation psychanalytique. Il est indéniable que les fusées ressemblent à de gigantesques phallus. Les zeppelins, qui ont joué un grand rôle en tant que symbole au début de la psychanalyse, ont désormais trouvé des dignes successeurs contemporains. Il est tout aussi indéniable que l'ascension verticale d'une fusée a un aspect érectile et que le détachement des capsules occupées par les petits hommes ressemble à d'énormes images d'éjaculation. Enfin, on conçoit aisément que l'alunage a quelque chose à voir avec la conquête d'un sol vierge. En fait, cette chaîne d'événements ne contient pas un seul élément qui n'est pas ou ne pourrait pas être vécu comme l'équivalent de quelque chose de sexuel. Ce chapitre est intitulé « Le culte collectif du phallus ». Si on lit ce titre trop vite, on peut comprendre qu'il pose l'existence d'un culte du phallus célébré collectivement. Ce serait un malentendu. Quand j'affirme qu'il y a des millions de témoins oculaires qui comprennent les vols spatiaux comme des événements sexuels, je ne prétends pas que ces millions d'humains célèbrent un rituel dionysiaque dans une ivresse commune. Ici, ce n'est pas l'événement culturel qui est collectif, mais son objet. Le culte lui-même est dispersé.
Dispersé, c'est ça la société de masse, mais quand même bien réel. Le culte du phallus, ça vous intéresse comme analyse, Irénée Regnault ?
Écoutez, en fait, non. Mais je trouve ça intéressant que ça ait été écrit très tôt, puisque c'est des critiques qu'on entend encore dans la bouche d'astrophysiciens très connus, cette idée que voilà, il y aurait cette forme de domination sexuelle. Je ne crois pas franchement que ce soit une analyse pertinente d'un point de vue sociologique, si ce n'est qu'elle existe, d'une certaine manière. Et je crois surtout que, encore une fois, ces critiques assez englobantes et avec tout le respect que j'ai pour quelqu'un comme Günther Anders, ne nous permettent pas justement d'opérer cette différenciation entre les différentes activités du spatial. Oui, effectivement, les fusées sont des objets de domination, vous me l'avez fait dire d'une certaine manière, mais pour autant, on ne peut pas verser dans un déterminisme technique basique. Ce sont aussi des engins dont aujourd'hui nous avons besoin, ne serait-ce que pour des questions environnementales, des questions climatiques, etc.
Donc, Sophie Roux, pardon,
je vous demande. Non, allez-y.
Sophie Roux, vous êtes avec nous maintenant, je crois. Bonjour, je n'ai pas encore entendu le son de votre voix. Vous faites de la philosophie et de l'histoire des sciences à l'École normale supérieure à Paris. Dès les années 1860, Jules Verne écrit beaucoup sur fait de la science-fiction. Alors, il faudrait bien pouvoir faire le tour du monde, de la Terre, cette fois-ci, très vite. Mais, évidemment, l'extraterrestre le passionne aussi. Est-ce que vous pensez que c'est là que c'est joué? Allons, osons le mot, quelque chose de phallique, un désir irrépressible de puissance des humains se jouant au-delà du terrestre?
Non, je ne suis pas convaincue par cette interprétation pour d'autres raisons. Et en fait, le rapport à la science-fiction commence largement dès le XVIIe siècle.
Oui.
Il n'y a pas de conquête de l'espace au sens où nous l'entendons au XVIIe siècle. On n'a pas envoyé de fusée, de Spoutnik, on n'a pas marché sur la Lune, il n'y a pas de sonde d'orbiteur sur Mars. Néanmoins, un effort d'imagination fondé sur les données de la science du XVIIe siècle a permis aux êtres humains de se représenter ce qu'était la Terre vue du ciel et d'imaginer qu'il y avait peut-être des formes de vie, y compris des êtres similaires aux hommes, dans ces autres mondes. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, on a quantité d'ouvrages tout au long du XVIIe siècle qui sont publiés, qui parlent de ces mondes imaginaires, on va dire. On a d'abord le Songe de Kepler, qui est un ouvrage vraiment complexe et publié à titre posthume par le fils de Kepler.
Et on parce ensuite... que Kepler lui-même, il est mort en 1630. Hein. Oui. Pardon, je voulais juste donner quelques.
Il est mort en 1630.
Et Kepler.
Et l'ouvrage.
Oui. Pardonnez-moi. Non, finissez. Je suis désolée.
Non, l'ouvrage est publié en 1634. C'est un ouvrage, enfin on y reviendra peut-être, mais qui est écrit en plusieurs strates, avec une histoire très complexe. Mais ce que je disais, c'est...
3. I was in a sheer dress the day that we met. We were both in a rush, we talked for a sec. You friended me up so we could connect. And what are the odds? You sent me a text and now the next thing I know I'm like, manifest, that's your oversize. I digress, got me scrolling like, out of breath, got me going like, ooh, who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? Like, ooh, maybe it's all in my head, but I bet we'd have really good chemistry. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon with me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Who's the cute guy with the wide blue eyes and the big bad moonlight? I know it sounded a bit redundant, but I bet we'd have really good then. Next week, I bet we'd have really good.
They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalty. penalties. Bitch, I'm in your shit if you sever me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll yeah. go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil. She a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole life for me to settle. She the devil. She a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole yeah. life for me to settle.
Yeah, said pop, make money, now you try, bitch. You could use a revamp with a new vibe, sis. I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan, cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time bitch, you ain't new, I win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Said I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extreme is all. I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more. Cause bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She a rebel, she put her foot to the pedal. It'll take a whole life for me to settle. She the devil, she a bad little bitch. She a rebel, she put her foot to the pedal. It'll take a whole life for me to
3. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight.
We'll be right back. Beep, 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 beep. matinée. Suzanne Scott est une perle.
Nous étions en hiver au début de l'année 1666. Mon maître était là, debout dans l'atelier. Il regardait par la fenêtre.
Fuseline pense alors aux naseaux des buffles, au feu aussi allumé dans la forêt le soir afin d'éloigner les bêtes sauvages et qui se consument avec lenteur durant les heures de la nuit.
Ça va donner envie à Juliette d'aller y voir de plus près.
On vous le dit afin de vous mettre l'eau à la bouche. D'autres personnages très intéressants vont intervenir et créer des situations loufoques, étonnantes et même du suspense.
Allez, Catherine, dépêche-toi, j'ai envie de commencer.
Bouillon de lecture. Et si on vous donnait envie de lire ?
Des romans, des nouvelles, des essais, des récits, de l'aventure, ce qui compte,